بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Avant de commencer ce nouveau chapitre sur les petits signes de Qiyama, on aimerait faire avant tout un bilan de ce rendez-vous des jeunes qui a eu lieu donc vendredi, samedi et dimanche. Alhamdulillah, l'objectif était de rassembler au maximum 400 jeunes entre 15 et 25 ans. Je me souviens quand on avait fait le Mashvera, il y avait certains, même parmi les ulama, ils nous ont dit que vous êtes vraiment optimistes, vous croyez vraiment que 400 jeunes vont se mobiliser pendant le dernier week-end des vacances pour rester 3 jours cloîtrés dans une masjid, d'autant plus que le public visé n'était pas forcément le même visé lorsqu'on fait un jour. C'était surtout les jeunes qui étaient un peu plus éloignés, qui connaissaient certaines difficultés, c'est-à-dire les jeunes un peu plus, comme on dit, modernes. Donc certains, ils étaient pessimistes. Ils ont dit que si vous arrivez à 200, 250, c'est déjà bien. D'accord ? Et pour Saint-Denis, on nous avait donné un quota de 100. Et là aussi, on nous a dit, enfin, certains, ils pensaient que 100, mais ça trouve 100 jeunes dans Saint-Denis pour venir à un rassemblement. Ben, alhamdoulilah, quand on a démarré vendredi, avec les inscriptions du centre-ville, Latanier, Moufia et Saint-Clotilde, on avait 2 bus. Il y avait 90 jeunes. Et puis, on a eu 10 qui sont venus pendant le week-end. Subhanallah, on a eu le quota 100. Peut-être même qu'on a dépassé légèrement le quota. C'était quelque chose d'assez spécial. Subhanallah, c'était extrêmement émouvant. On avait mis les 2 bus près de Madrissa, à Rijouet de Dieu, vendredi. Le rendez-vous était prévu à 7h du matin. Et lorsqu'on arrive dans cet endroit, on voit 100 jeunes. Et on connaît que certains, ils sont des jeunes, alhamdoulilah, réguliers dans la salade. Certains qui ont avoué que depuis Ramadan, ils n'ont jamais plus remis le pied dans une masjid. Vous voyez, 100 jeunes, ils ne sont pas habillés en kafni, en turban, avec une grande barbe. C'est pas ça. C'est d'autres, certains, alhamdoulilah, oui, mais certains, c'était d'autres catégories visées. Vous voyez un brassage de toutes les catégories de jeunes de Saint-Denis. Ils sont là, 90. Ils remplissent 2 bus avec leur sac, avec leurs affaires. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de passer 3 jours dans le chemin d'Allah. Parce que quand on dit « Fisabilillah », ce n'est pas spécialement une manière de travailler. Non. Si l'objectif, c'est d'aller étudier, d'aller apprendre le dîn d'Allah, sortir pour faire sa propre correction, comprendre « Haqiqat iman », réalité de iman, ben Inch'Allah, ils sont dans le chemin d'Allah. Donc, c'était une scène extrêmement émouvante lorsqu'on a fait doigt avant de quitter donc le centre-ville, de voir ces jeunes-là, subhanallah, on se dit que dans une époque comme on est, dans laquelle nous vivons en 2008, dans un pays comme la Réunion où il y a un degré de fitna qu'on n'explique même plus, ben, trouver 100 jeunes qui donnent 3 jours pendant les vacances scolaires, juste avant la reprise, ben, moi je dis que c'est énorme. Et il y a bien des rassemblements similaires qui sont faits dans les pays musulmans, dans les pays arabes par exemple, il y a ce genre de rassemblement, mais on ne peut pas comparer un pays musulman avec un endroit comme la Réunion. Ici, tous les facteurs sont réunis pour que les jeunes tombent dans le péché. Tous les facteurs sont réunis pour que les jeunes succombent au même mot, M-A-U-X, auquel succombent ceux qui n'ont pas iman. Et donc, dans ce contexte particulier, trouver ces 90 à 100 jeunes qui donnent 3 jours, moi, honnêtement, j'étais très ému. J'ai déjà vu des rassemblements beaucoup plus nombreux, bien sûr, lorsqu'on a des groupes de hajj. Hein, c'est 150, c'est arrivé à 190 personnes. On quitte Gilo, on va vers cet endroit. Alhamdulillah, il y a beaucoup d'émotions. Mais là, c'est un public différent. Là, c'était que des jeunes, entre guillemets, branchés aussi. Et alhamdulillah, ces 3 jours ont été exceptionnels. Vous n'avez qu'à regarder sur certains forums, certains sites internet tenus par des musulmans, donc des jeunes. Hein, les retours, subhanallah, tous les jeunes qui ont écrit, ils témoignent que vraiment ce rassemblement était unique, du côté des filles aussi, parce que les programmes étaient ouverts aux filles, mais de Saint-Pierre. Les infrastructures n'étaient pas suffisantes, Il y avait une seule grande salle qui pouvait contenir 200 personnes. Donc, ils pouvaient, c'était que les filles de Saint-Pierre qui pouvaient assister au programme. Et du côté des garçons, comme du côté des filles, ils ont écrit sur les forums que c'est la première fois qu'il y a un programme qui est fait spécialement pour les jeunes. Et un bayan qui est fait dans ce genre de programme, et un bayan qui sera fait sur un mimbar, un jumman, ou alors dans le cadre du tablik ou autre chose, ben, c'est deux mondes différents. Jamais on ne s'aventurerait à faire ce genre de programme dans un jumman. Ce serait lourd en sanctions. Parce que la moitié du bayan, c'est des plaisanteries. La moitié des bayan, c'est des plaisanteries, ou c'est un vocabulaire assimilé par les jeunes. C'est un vocabulaire qu'on oserait, sans être grossier, mais c'est un vocabulaire qu'on ne prononcerait pas dans un discours soutenu. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est que ces personnes qui sont là voient que tout compte fait entre eux, parce que la limite d'âge, c'est 25 ans, et les ulama qui ont accompagné, c'était des jeunes. Hein, il y en a qui commencent à 28, 29 ans, mais qui se rendent bien compte qu'il n'y a que 2 ou 3 années qui les séparent. Et qu'ils voient bien que nous avons une même vision de ce monde moderne. Et que si nous pouvons adapter notre pratique par rapport à ce monde de fitna, ben vous aussi vous pouvez le faire. Et d'ailleurs les sujets qui ont été abordés, c'est les problèmes de Ummah. Alors que certaines personnes n'aiment pas qu'on aborde les sujets de problèmes de Ummah pour des raisons tout à fait acceptables. Mais là l'objectif c'était d'aborder ces problèmes. C'est souvent des problèmes qu'on fuit dans les bayans, c'est souvent des problématiques qu'on n'ose pas aborder parce qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir. Mais là qu'on réunit des gens qui sont tous impliqués, pas impliqués, qui sont tous victimes de ce système, hein, de ce cercle vicieux, ben, l'occasion était unique pour aborder ces sujets en profondeur sans qu'il n'y ait de point tabou qu'on évite de crainte de heurter des sensibilités ou non. Tout ce qui pouvait être dit, alhamdulillah, a été dit. Le premier jour, après le discours de présentation, le premier discours, c'était sur les problèmes de zina. On ne va pas utiliser d'autres termes. Les problèmes de irtilat, les problèmes, les garçons qui sortent avec les filles. Et ça, il ne faut pas croire que c'est juste chez d'autres communautés. Chez notre propre communauté, il faut ouvrir un peu les yeux sans, tout en baissant le regard, mais savoir ouvrir les yeux et voir que ben, c'est quelque chose de banal. C'est quelque chose de commun qu'un jeune garçon de 13-14 ans sorte avec une fille, musulmane ou non musulmane. Ça fait partie des choses de la vie, malheureusement. C'est un constat. Je ne dis pas que c'est une normalité, c'est un constat. Et donc, il fallait trouver une solution à ce problème parce qu'il suffit peut-être 5 ou 6 ans. Un garçon sortait avec une fille. Au pire des cas, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Prendre un sandwich ensemble, s'asseoir, boire un coca ensemble sous un arbre dans le lycée ou alors je ne sais pas quoi. S'asseoir ensemble dans le bus, je ne vois pas où ça pouvait aller de plus. Mais maintenant, ce n'est pas pareil. Maintenant, il y a plus, le zina n'est plus considéré comme un péché. Par rapport aux messages qui sont donnés par la société, que l'émancipation sur le plan sexuel, on dit le mot, la découverte de son corps et tout, ben ça c'est un, moi je dis que c'est un bourrage de crâne malheureusement, c'est un bourrage de crâne, cela, ils ont l'impression que cela reflète hein, une ouverture d'esprit, mais est-ce que dans le vice, est-ce que dans le zina, on peut parler d'ouverture d'esprit? Quand on n'a pas de limite, quand on ne connaît pas la frontière qu'il y a entre le halal et le haram, quand on ne croit pas au paradis, quand on ne croit pas en l'enfer, à la résurrection, aux questions des anges dans la tombe, oui, on peut dire que l'épanouissement sur ce plan-là, relation entre hommes et femmes, ça fait partie de la liberté. On choisit son partenaire, on sort couvert, on fait tout ça, mais on a essayé de fixer les limites hier, vendredi, ils ont essayé de fixer les limites, de faire comprendre que certes, il y a un discours qui va dans ce sens, mais nous, musulmans, on a quelque chose dans notre cœur qui s'appelle iman. Et on a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est la taqwa, la crainte d'Allah. Et qu'un musulman ne peut se mettre dans une situation où il va désobéir délibérément à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en étant réaliste. On ne va pas dire à tous les garçons qui vont au lycée de ne jamais regarder une fille, de ne pas regarder la professeure madame. Ça c'est du n'importe quoi. D'ailleurs, Moana Chaukat, il s'appelle Moana Chaukat de Saint-Paul, il a bien dit que quand on va acheter le pain, ben, quand on va à la banque ou alors à la poste et tout, ben, il y a des dames partout, ça c'est clair. C'est une société laïque, il y a pas de, on va pas dire qu'on reste enfermé chez soi pour baisser le regard, non. Tout en étant réaliste, mais comprendre quelles sont les limites à ne pas franchir. Moi, il y a quelque chose qui me choque parfois, c'est, je le dis, après Fajr, quand on va acheter le pain chez Castel, ben, écoutez, on achète le pain, c'est 90 centimes, on prend la monnaie, mais on n'est pas obligé de serrer la main de la vendeuse. et qu'on voit des musulmans qui le font après Fajr, lorsqu'on entend la salat, dit que d'accord, on est d'un pays, on n'est pas d'un pays musulman, mais écoutez quand même, hein, il y a quand même une frontière. D'accord, c'est pas parce que c'est une dame qui vend le pain qu'on ne va pas acheter le pain. On va dire, madame fait de pain à la main, tant mieux, c'est excellent. Mais c'est pas parce que c'est une dame qui a la caisse qu'on n'achète pas le pain. Ok, mais on n'est pas obligé quand même de donner la main et de dire bonjour à la dame. Ça c'est au-delà du seuil de la taqwa quand même. Donc c'est de trouver des limites. Donc, Moïse Chokat a bien expliqué que, tout en étant réaliste, trouver quelles sont les limites. Et puis il y a eu l'intervention d'un médecin aussi, musulman, qui a expliqué les problèmes liés au MST, à ce genre de problème et tout. Donc on a essayé de faire un brassage entre l'opinion, entre ce que l'islam dit de ce genre de choses et puis la médecine également. Le deuxième jour, le discours était axé sur, subhanallah, sur les mukhadirat, comment on dit ça en français, sur les addictions, le problème lié premièrement à la cigarette, problème lié à l'alcool et enfin en troisième partie les problèmes liés aux drogues douces, hein, particulièrement aux amals. Et il y a une intervention remarquable de Mouali Mohamed Bagat et puis il y a eu un psychologue, un musulman, ça aussi c'est quelque chose à souligner, qu'alhamdulillah on a un psychologue musulman qui a moins de 30 ans, c'était notre génération, on a passé le bac à un an de décalage, mais ça fait plaisir qu'il y a quelqu'un qui va faire autre chose que comptable, moi je le dis clairement. Tous nos jeunes qui vont en BTS, en BTS comptabilité, en STI, STG, ça aussi on a précisé. Mais alhamdoulilah, quelqu'un qui se démarque, qui fait des études de psychologie, mais ça c'est extrêmement avantageux. C'est un apport non négligeable pour notre communauté. Et puis ben justement, pour rebondir là-dessus, le soir, programme fait par Mouali Ismaël de Saint-Louis, et puis par un de nos jeunes de Saint-Denis, responsable d'un centre de formation, il a donné toutes les filières phares de notre époque. Quelles sont les filières dans lesquelles les jeunes doivent s'engager, l'avenir dans ce genre de travail, et puis les filières gouffres où il ne faut plus y mettre les pieds. Et des exemples de cas précis où il a vu des gens avec des bacs plus 4, plus 5, et qui se retrouvent vendeurs dans un supermarché ou autre chose, parce que ce genre de diplôme n'a pas de débouché à la réunion. Bref, c'est-à-dire, les jeunes, ils ont vu qu'on a parlé des problèmes qui concernent le iman, et également qui concernent le fikar aussi, c'est leurs études et leur emploi. Et puis le dernier jour, il y a eu bayan sur iman yaqin, sur l'importance de la salat, la confiance en Allah, des bayan plus classiques, puisque ce côté-là aussi devait être abordé. Et puis le programme de clôture, c'était sur les divertissements. Et sous le nom divertissement, on avait notre objectif, mais on a changé le titre pour ne pas choquer personne. À l'origine, le discours s'appelait musique et boîte de nuit. Mais si on disait aux jeunes qu'il y a un discours sur musique et boîte de nuit, ils vont se sentir peut-être agressés. Ah bon, ben non, on va dire que tout ce que je fais c'est haram. Donc on a fait passer sous le terme divertissement. Et puis effectivement, on a expliqué quels sont les divertissements qui sont autorisés. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on n'a pas le droit d'évacuer un peu le stress, de penser à autre chose. Et puis on a parlé assez longuement sur les dangers de la musique, des dangers qu'on n'imaginait pas, et sur le danger des boîtes de nuit. Et la boîte de nuit a cette particularité de regrouper tous les problèmes qui ont été abordés durant le séminaire, alcool, cigarette, donc sa cigarette maintenant c'est presque innocent, cigarette, alcool, drogue et zina à proximité. Et on a eu même, parmi les professionnels qui ont intervenu, ce qu'on peut appeler ça un professionnel, on a eu un disque jockey qui a intervenu également, un musulman qui dans ses EAP a dû et disque jockey, vous savez c'est quoi un disque jockey? Il vaut mieux que vous ne saviez pas c'est quoi. Donc il a apporté son témoignage et c'est quelqu'un qui depuis quand il est venu là ces trois jours, ben il m'a dit que c'est la première fois qu'il passe trois jours sans écouter la musique, sans se réveiller et dormir avec la musique. Ce sont des témoignages poignants. Moi je le dis avec mon grand barbe, avec le titre de Moulissab, et un jeune de 18 ans qui n'a pas de barbe, qui s'habille comme un jeune, hein, on le dit comme ça, sur un minbar, il le dit, ça a un autre poids. Un jeune qui a connu ce degré de fitna, peut-être plus avancé que l'auditoire qui était présent, nos jeunes écoutent la musique, mais là j'ai trouvé l'appel rare, j'ai trouvé un DJ, il fallait chercher, je l'ai trouvé, et un jeune qui a atteint ce degré de fitna, et qui fait passer le message aux jeunes que voilà, je fais ça, j'ai fréquenté toutes les boîtes, je connais tout ça, maintenant j'ai décidé de retourner auprès d'Allah, de retourner vers Allah, parce que j'ai vu telle chose qui m'ont heurté, et j'ai vu quels sont les dangers de ces sorties en boîte. Et mes chers frères et mes chères sœurs, si quelqu'un venait à me demander un conseil, ce soir je suis invité pour la première fois en boîte, j'y vais ou je n'y vais pas, je vous dirais directement, n'y va pas, parce que quand on y entre, c'est difficile de s'en sortir, et les péchés dans lesquels on tombe, on ne peut pas s'imaginer. Parfois quelqu'un dit, je vais juste pour l'ambiance, je m'ennuie chez moi le samedi soir, je ne vais pas boire, je ne vais pas voir les filles, je ne vais pas faire zina, juste pour rester avec mes amis, pour ne pas être hors circuit, Et puis, Shaitan vous amène peu à peu vers une boisson, vers un coca, puis un Red Bull, puis un je ne sais pas quoi, et puis ça termine par l'alcool, et puis tout, etc. Alhamdulillah, témoignage extrêmement enrichissant qui a touché énormément de jeunes. Inch'Allah, cet événement, ce genre de rassemblement, hein, il y a eu tellement de retours positifs, les jeunes étaient tellement contents. Et là, on est en train de mettre ça en ligne sur Internet peu à peu pour ceux qui n'ont pas pu venir. Ils ont demandé, ils veulent refaire, ils veulent qu'on réorganise encore. Inch'Allah, l'année prochaine, peut-être dans d'autres villes, faites doigt qu'Allah Ta'ala facilite. C'est quelque chose d'important, extrêmement important de tenir compte de notre jeunesse. Parce que, comme on a déjà dit l'autre fois, et on le répète tout le temps, cette jeunesse, si on ne donne pas, si on ne les donne pas le droit, ça va s'empirer. Pourquoi ça va s'empirer? Parce que déjà dans cette jeunesse, il y a des manquements. La frontière du haram a été grignotée. Presque explosée cette frontière du haram. Et ce sont les parents de demain. Si eux, ils n'ont pas iman de leur cœur, le maillon qui va venir après, c'est-à-dire leurs enfants, leurs petits-enfants, si un maillon est rompu dans la chaîne de hidayat, de iman, le reste, ils n'auront pas hidayat. Déjà de nos jours, moi je vois des parents d'élèves de le quartier où j'enseigne, quand le professeur d'école dit que voilà, il y a des cours de soutien pour tes enfants de 4h30 à 5h30, parce que ton fils est faible en maths ou en français ou autre chose, ben, j'ai des parents d'élèves, plus d'un parent, c'est pas un seul, plusieurs, car ils n'hésitent pas à enlever leurs enfants de madrasa. Pour ses parents, c'est pas grave, mon enfant ne saura jamais lire le Coran, mais pourvu qu'il connaisse ses tables de multiplication, qu'il sache lire correctement, bien sûr qu'il faut les envoyer à l'école, bien sûr qu'il faut qu'ils aient un bon niveau scolaire, mais de là à faire passer un soutien scolaire qui est facultatif sur le Coran, je trouve que c'est un degré, c'est une autre étape ça. C'est une autre étape dans le plongeon vers le dunya. C'est-à-dire, il y a 5 ou 6 ans, c'était impensable qu'un papa ou une maman n'envoie pas son enfant à l'école. Là déjà, on constate cette dégradation et ça va aller de pire en pire. Vous dites que oui, mais attends, il ne faut pas être pessimiste. Je ne suis pas pessimiste et là, on rebondit directement sur ce qu'on doit dire aujourd'hui. On n'est pas pessimiste. Cela a été annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يأتي على الناس زمان يحجون ويصلون ويصومون وما فيهم مؤمن. Viendra une époque où les gens feront le pèlerinage, le hajj. Les gens feront la salat, les gens jeûneront le ramadan, mais il n'y aura pas un mu'min parmi eux. Ils sont musulmans, mais la réalité du iman n'est plus présent. Être musulman de nom. C'est-à-dire que les a'mal sont là. Comprenez bien que le prophète, il dit que ces gens-là, ils font les mêmes ibadat. Le hajj, c'est comme notre hajj, et c'est comme le hajj des sahaba. La salat, c'est pareil. Le ramadan, c'est pareil. C'est-à-dire, le prophète n'a pas dit qu'ils n'accompliront plus d'actions. Les actions, ils seront toujours, mais ce seront des actions sans fond. Il n'y a pas de réel iman, de haqiqa, de réalité de iman, n'est pas entré dans leur cœur. Et comme on avait dit la dernière fois, que le prophète avait dit que la meilleure des communautés, c'est la sienne, puis celle qui vient ensuite, puis celle qui vient ensuite. Et les ulama disent que plus on descend de l'histoire, plus on va de siècle en siècle, moins les musulmans, ils sont accrochés à leur dîn. Et ça, c'est Allah Ta'ala qui a voulu que le iman diminue. Maintenant, ce n'est pas une fatalité, parce que parmi cette quantité de musulmans qui seront éloignés du dîn, Allah Ta'ala gardera toujours certaines personnes pour faire revivre le dîn. Dans le hadith, si je ne me trompe pas, rapporté par Imam Ahmad, il est dit que dans toutes les générations, tous les siècles, Allah Ta'ala va envoyer des gens qui vont faire revivre ce dîn. Par leur ilm, leur connaissance religieuse, par leur iman. Quel que soit l'endroit, ça peut être dans un pays en Afrique, en Europe, en Occident, en Orient, toujours des personnes qui vont ramener le iman, qui vont ramener les gens vers le droit chemin, bi'iznillah. Et il y aura toujours une tranche de la population qui restera accrochée à son dîn. Et ce seront là les meilleurs des hommes. Une fois, le prophète sallam avait dit avec Sahaba, ça c'est dans Hayat al-Sahaba, quand est-ce que, en ce sens, que je vais voir mes frères? Sahaba dit au prophète d'Allah, ben, c'est nous, tes frères. En ce sens, le prophète sallam dit que non, vous êtes mes compagnons. Mes frères, c'est qui? Ce sont des gens qui vont venir après moi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu le prophète sallam, ils n'ont pas vu le Coran révélé, ils n'ont pas vu ce mahoj de dîn. Regardez la différence dans les kitab, il dit que Sahaba disent que lorsqu'ils ont enterré le prophète sallam, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu déjà un changement dans les cœurs. Ils ne sont pas devenus munafiqs, jamais de la vie. Mais dans le mustawa iman, dans le degré de iman, au moment où le prophète sallam ferme ses yeux, il y a un changement dans les cœurs. Aïcha, radiallahu anha, si je ne me trompe pas, c'est elle-même, ça, c'est au sujet un peu, elle disait qu'elle parlait de Ijazat, hadith que le prophète me dit que si une de vos femmes vous demande l'autorisation pour venir à la masjid, ne refusez pas. C'est un hadith adressé aux hommes, bon, dans le contexte bien sûr, et Aïcha, elle a dit que